En Caroline du Nord, on impute la mort d'une femme de 45 ans à un tragique accident de la route. Mais bientôt, l'enquête fait naître davantage de questions qu'elle ne fournit de réponses. Les policiers ne tarderont pas à apprendre que les apparences peuvent être trompeuses. Une mère de 6 enfants est trouvée brutalement assassinée dans sa maison de Floride. Les indices mettent les détectives sur la piste d'un suspect, mais son mobile et l'endroit où il se cache restent un mystère. Pour certains meurtriers, la mort peut être un gagne-pain fort rentable. Lorsqu'une victime est la cible d'un tueur à gages, les enquêteurs doivent regarder au-delà des apparences pour faire la lumière sur ces meurtres sur commande. Le 23 août 1995, tôt le matin, une automobiliste appela d'urgence des secouristes et des ambulanciers dans un secteur isolé près de l'autoroute de Blue Ridge en Caroline du Nord. Elle s'était arrêtée à un belvédère pour admirer le paysage et avait alors aperçu une mini-fourgonnette qui s'était écrasée plusieurs centaines de mètres plus bas. Il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur. Les secouristes de Transylvania County descendirent dans le ravin en espérant trouver des survivants. En ouvrant le véhicule, un morceau de parpaing taché de sang tomba à l'extérieur. Le corps d'une femme était affaissé sur le siège avant. Elle avait subi d'importantes blessures à la tête. On ne sentait pas son pouls. On sortit le corps du véhicule et on l'envoya à la morgue pour le faire examiner. La police d'État de la Caroline du Nord se mit à la recherche d'indices pour découvrir comment et pourquoi le véhicule avait quitté l'autoroute. Il n'y avait aucune trace de pneu sur la chaussée qui aurait indiqué que la conductrice avait freiné ou fait une embardée. On pouvait en déduire qu'elle s'était endormie au volant ou encore qu'elle conduisait sous l'effet de l'alcool ou de drogue. On remonta le véhicule pour l'examiner. La mini-fourgonnette était immatriculée au nom d'un certain Edward Kratzert. Il vivait à Bradenton, en Floride, soit à plusieurs centaines de kilomètres de là. Après avoir constaté que la mécanique était en parfait état de fonctionnement, les techniciens se mirent à la recherche d'autres indices. Il y avait des taches brun-rouge à l'intérieur de la portière du côté du conducteur. L'analyse révéla qu'il s'agissait de sang humain. À l'intérieur, on trouva un porte-monnaie et un permis de conduire. La conductrice fut identifiée comme étant Wendy Kratzert, âgée de 45 ans. C'était l'épouse du propriétaire du véhicule. On trouva du sang partout à l'intérieur de la mini-fourgonnette. Sur le sol, devant le siège du passager, il y avait le papillon d'une boucle d'oreille. Les techniciens ignoraient encore de quelle utilité seraient tous ces objets, mais ils prirent soin de les recueillir tous et de les conserver. Pendant ce temps, les autorités du comté se mirent à la recherche de la famille de Wendy pour leur apprendre la nouvelle de sa mort tragique. Lors de l'autopsie, le médecin légiste Robert Thompson chercha à découvrir ce qui avait pu causer l'accident. Il ne trouva aucune trace de drogue ni d'alcool dans le sang et les tissus de la victime. La mort de Wendy avait été provoquée par de nombreux coups violents portés à sa tête. Elle avait subi 5 fractures sur le dessus et l'arrière du crâne. Même si elle ne portait pas de ceinture de sécurité lors de l'accident, l'emplacement et le nombre de ses blessures étaient inhabituels. Les résultats de l'autopsie poussèrent les détectives du bureau d'enquête de la Caroline du Nord à examiner d'un peu plus près le cas de Wendy Clatsett. L'agent spécial et expert en morphologie de taches de sang, Andy Klein, examina les photos des lieux de l'accident. Il fut immédiatement frappé par l'absence de sang à l'endroit où le corps de la victime avait abouti.
À en juger par la position dans laquelle elle se trouvait, c'est-à-dire avec sa tête au sol du côté du passager et la blessure sur le dessus de sa tête au niveau de sa nuque, je m'attendais à ce qu'il y ait une mare de sang plus importante, dans la mesure où elle s'était infligée cette blessure à l'intérieur du véhicule.
Plus troublante encore était la présence du sang de la victime sur le marchepied à l'extérieur du véhicule.
J'ai remarqué plusieurs taches de sang sur le marchepied, qui auraient dû être hors de portée compte tenu que la portière était fermée. Cela signifiait que la portière était ouverte et qu'elle avait perdu du sang à cet endroit.
Ainsi donc, Wendy Clatsett saignait avant d'entrer dans le véhicule. L'enquête de cet accident tragique semblait susciter plus de questions que fournir de réponses. La police apprit alors que Wendy et son mari possédaient un chalet à seulement quelques kilomètres de la scène de l'accident. Un peu plus tard, les policiers se rendirent à cette adresse. Il semblait n'y avoir personne. Ils virent alors une grosse mare de sang. Des analyses subséquentes permirent de constater qu'il provenait de Wendy Clatsett. Un papillon de boucle d'oreille identique à celui de la mini-fourgonnette se trouvait à quelques centimètres. Compte tenu de la quantité de sang perdu, la victime n'avait pas pu survivre à moins qu'on lui ait prodigué des soins médicaux d'urgence. Pas très loin, les enquêteurs aperçurent une marque laissée par un objet lourd. La marque était de la même forme que le morceau de parpaing trouvé dans la mini-fourgonnette. Pour la police, il n'y avait plus de doute possible. Wendy Clatsett avait été brutalement assassinée et son meurtrier avait maquillé la scène pour que l'on croie à un accident. Maintenant, il fallait tenter de trouver celui qui avait tué Wendy et pourquoi il l'avait fait. La police de Transylvania County avait hâte d'interroger Edward, le mari de Wendy. Il se trouvait chez lui à Bradenton, en Floride. La police de Transylvania entra en contact avec la police de Bradenton pour que des agents aillent interroger le mari de la victime. Edward Clatsett sembla abasourdi en apprenant le meurtre de sa femme. Depuis que les enfants avaient terminé leurs études secondaires, Wendy passait beaucoup de temps à leur chalet de Caroline du Nord. Edward ajouta qu'il avait été victime d'une crise cardiaque peu de temps auparavant et qu'il se trouvait chez lui en Floride au moment du meurtre. Wendy était restée s'occuper de lui pendant sa convalescence. Puis elle avait décidé de retourner en Caroline du Nord seule. Wendy était une femme indépendante. Elle avait même été embauchée comme serveuse à temps partiel en Caroline du Nord. Personne, selon Edward, ne pouvait lui en vouloir au point de souhaiter sa mort. La police de Floride confirma l'alibi d'Edward et l'élimina de la liste des suspects. Pour identifier le meurtrier de Wendy, les détectives interrogèrent ensuite ses collègues de travail au restaurant où elle travaillait à temps partiel. L'une d'elles avait remarqué que Wendy était irritable et fatiguée peu de temps avant sa mort. Elle lui avait dit qu'elle avait reçu à la maison des visiteurs inattendus de Floride à quelques reprises. La collègue ignorait le nom de ses visiteurs, mais pour la détective Rita Smith du service des homicides de Transylvania County, il était évident que Wendy ne se réjouissait guère d'avoir ces personnes chez elle.
Wendy n'était pas à l'aise avec ces gens. Il fumait dans sa maison. Elle avait l'impression qu'ils lui volaient des choses.
Dans l'espoir d'identifier ses invités, les enquêteurs fouillèrent parmi les effets personnels recueillis dans le chalet de Wendy. Ils y trouvèrent un indice potentiel. Quelqu'un avait noté les noms de Tom et Luana Harrison sur un calendrier. Une vérification des dossiers permit de découvrir que les Harrison vivaient dans le même quartier à Bradenton, en Floride, que Wendy et son mari. On dépêcha des policiers à la maison des Harrison pour questionner le couple. Les Harrison reconnurent avoir rendu visite à Wendy en Caroline du Nord quelques semaines avant sa mort. Tom déclara que Luana et lui étaient des amis proches des Cratchit. Ils fréquentaient régulièrement le couple. Ils déclarèrent ne pas avoir remarqué de problème entre Edward et Wendy. Celle-ci les avait invités à passer quelques jours à leur chalet en Caroline du Nord, au moment qui leur conviendrait le mieux. Elle leur avait d'ailleurs remis une clé du chalet. Ils avaient accepté son invitation, mais cela s'était produit quelques semaines avant le meurtre. Ils n'y étaient pas retournés depuis. Afin de ne rien négliger, le policier leur demanda ensuite où ils se trouvaient au moment du meurtre. Tom Harrison devint alors nerveux. Il déclara qu'il n'aimait pas se faire traiter de suspect et demanda au policier de partir sur le champ. Cet étrange comportement de Tom Harrison poussa les policiers à croire qu'il leur cachait peut-être quelque chose. Pour en savoir un peu plus, ils obtinrent un mandat les autorisant à examiner ses relevés de cartes de crédit au cours des semaines précédant et suivant le meurtre. Ils s'aperçurent alors qu'il s'était servi d'une de ces cartes pour régler des hôtels et des agences de location de voitures un peu partout en Caroline du Nord. De fait, les reçus indiquaient que Tom et Luana Harrison étaient à proximité de la scène du crime au moment du meurtre. Ainsi donc, Tom Harrison avait menti. La police de Transylvania County entra en contact avec les autorités de l'État de la Floride. On leur demanda de mettre Tom et Luana Harrison en détention provisoire. L'agent spécial Vince Delacchio se préparait à se constituer une équipe pour procéder lorsqu'il reçut une nouvelle troublante. Tom Harrison était mort.
Un matin, je suis entré au bureau et j'ai reçu un appel du bureau du shérif de Manatee County. L'enquêteur au bout du fil m'a demandé si j'avais vu la une du journal. La manchette principale avait pour titre « Un résident meurt lors d'un accident nautique ».
Selon le rapport, les autorités avaient découvert le bateau de Tom Harrison en flammes dans le golfe du Mexique. Après avoir éteint le brasier, les secouristes avaient tenté de retrouver le propriétaire de l'embarcation pendant plusieurs jours, mais en vain. On avait fini par abandonner les recherches. Le suspect numéro un dans l'homicide de Wendy Cratchit était maintenant porté disparu et présumé mort. Les autorités de la Caroline du Nord croyaient avoir enfin identifié le meurtrier de Wendy Cratchit, âgé de 45 ans, dont le meurtre brutal avait été maquillé en accident de la route. Elles se préparaient à procéder à l'arrestation du suspect lorsqu'elles apprirent qu'il avait été porté disparu et qu'il était présumé mort après qu'on eût trouvé son bateau en flammes dans le golfe du Mexique. Mais les policiers avaient l'impression que Tom Harrison avait monté de toutes pièces la mise en scène de sa mort pour qu'on cesse de le chercher. On demanda au lieutenant Marty Raymond de la commission des pêcheries et de la faune de la Floride d'élucider cette affaire.
Lorsque je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu une vedette de croisière d'environ 7,50 m de long. Le bateau avait complètement brûlé jusqu'à la ligne de flottaison, à l'exception de certaines portions de la proue à bâbord et de la poupe à tribord.
Des investigateurs purent rapidement constater que l'incendie n'était pas imputable à une défectuosité du système électrique. Après avoir soigneusement analysé les débris calcinés, ils s'aperçurent qu'en certains endroits du bateau, l'incendie avait atteint des températures plus élevées qu'à d'autres. Le bois brûlé présentait des motifs en écailles semblables à une peau d'alligator et tout à côté se trouvaient d'autres sections de bois qui n'avaient presque pas été touchées par les flammes. Il n'y avait qu'une seule explication à ce phénomène.
Selon le bureau de l'inspecteur des incendies, on avait mis le feu à l'aide d'un agent accélérateur. On pouvait voir où le feu avait commencé en analysant la façon dont le bois était endommagé, en examinant comment divers matériaux s'étaient consumés. Les professionnels du bureau de l'inspecteur savent très bien comment lire dans les restes carbonisés et les cendres.
Ainsi donc, l'incendie avait été allumé intentionnellement. Comme on n'avait trouvé aucune trace de restes humains parmi les débris, les enquêteurs étaient persuadés que Tom Harrison en était l'auteur. Le lieutenant Redmond interrogea alors la femme du suspect, Luana. En omettant de lui dire que les experts avaient découvert qu'il s'agissait d'un incendie criminel, il lui demanda de lui parler des circonstances entourant la mort mystérieuse de son mari. Elle déclara que le soir précédant l'incendie, Tom n'avait pas l'air de bien se porter. Après avoir regardé une partie de football en fin de soirée, il lui avait dit qu'il voulait aller pêcher. Inquiète, elle avait tenté de l'en dissuader. Malgré tout, Tom était parti après avoir sorti son équipement de pêche. Pour les enquêteurs, Luana n'avait rien d'une veuve éplorée qui venait de perdre l'homme qu'elle avait épousé 20 ans plus tôt. Elle semblait davantage souhaiter que l'enquête entourant la mort de son mari se termine au plus vite. Les policiers ne tardèrent pas à en connaître la raison. En plus d'être les principaux suspects de l'homicide de Wendy Cratchit, les Harrison avaient de graves problèmes financiers et Luana devait toucher un montant appréciable d'assurance suite au décès de Tom. Voici l'agent spécial Vince Delacchio de la police d'État de la Floride.
À ce moment-là, je me doutais bien que Tom Harrison n'était pas mort et que cet incendie était vraisemblablement un accident maquillé pour éliminer Harrison de la liste des suspects. De plus, connaissant sa situation financière, on pouvait en déduire qu'il espérait toucher l'argent de son assurance-vie.
Pour étayer cette hypothèse, les autorités mirent la maison des Harrison à Bradenton sous surveillance 24 heures par jour. Plusieurs mois s'écoulèrent sans progrès. Puis, un jour, la police aperçut Tom Harrison bien en vie. Il semblait se préparer à quitter la ville avec Luana. Peu après que le couple se soit mis en route, la police le força à se ranger. Tom Harrison donna un faux nom et un faux permis de conduire aux policiers. Luana et lui furent mis en état d'arrestation et accusés d'avoir fraudé leur compagnie d'assurance, en plus d'avoir provoqué un incendie criminel. Tom Harrison refusait toujours de coopérer avec la police, et sans preuve formelle de son implication dans l'homicide, les enquêteurs auraient encore beaucoup de travail à faire pour prouver qu'il avait tué Wendy Cratchit. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer les liens étroits entre les Harrison et le mari de la victime. Se pouvait-il qu'Edward Cratchit, dont le mariage battait de l'aile, ait engagé les Harrison pour faire tuer Wendy?
C'était le bon moment pour contacter de nouveau Edward Cratchit, le mari de la victime, et pour mener un nouvel interrogatoire en lui faisant savoir que les Harrison avaient été arrêtés. Nous avions l'espoir que cela pousserait Kratzert à parler.
On convoqua donc Edward Kratzert à un interrogatoire et on l'avisa de l'arrestation des Harrison. Les enquêteurs lui dirent également qu'ils étaient persuadés qu'il les avait engagés pour tuer sa femme et ils insinuèrent qu'il disposait de preuves. Le bluff fonctionna. Edward Kratzert décida de parler. Il avoua avoir participé au complot du meurtre, mais ajouta que l'idée ne venait pas de lui. Kratzert déclara qu'il s'était plaint de ses problèmes maritaux au Harrison. Il savait que Wendy projetait de le quitter. Depuis sa crise cardiaque, il craignait de se retrouver au cœur d'un divorce long et coûteux et de perdre la moitié de ses biens. Tom Harrison lui avait alors proposé, moyennant rétribution, de le débarrasser de ses problèmes. Edward accepta. Le meurtre devait ressembler à un accident. Mais lorsque la police découvrit qu'il s'agissait d'un meurtre, Edward décida de ne pas toucher au montant de la police d'assurance vie de sa femme. Par conséquent, il fut incapable de payer Harrison pour le meurtre et il craignait que celui-ci ne décide de le tuer à son tour. On mit Edward Kratzert en état d'arrestation et on l'accusa de complot pour homicide. La police fit ensuite part des déclarations de Kratzert à Tom Harrison, mais celui-ci refusa de coopérer. Cela ne changea rien à la preuve, puisque ses relevés de cartes de crédit démontraient qu'il se trouvait près de la scène du crime au moment du meurtre. Ces preuves, ajoutées à la déposition d'Edward Kratzert, étaient tout ce dont les policiers avaient besoin pour l'accuser d'homicide. Les enquêteurs croient qu'après être arrivés au chalet de Wendy en Caroline du Nord à l'improviste, Tom Harrison l'a frappée jusqu'à ce qu'elle meure. Le couple a ensuite mis le corps de Wendy dans sa mini-fourgonnette et s'est rendu à un secteur isolé près de l'autoroute Blue Ridge où il a tenté de maquiller la scène en accident. On a trouvé Edward Kratzert coupable du meurtre au premier degré de sa femme et on l'a condamné à une peine minimale de 11 ans. Quant à Tom Harrison, il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. En échange de ses aveux, Luana Harrison n'a eu droit qu'à 3 ans de probation. Les Harrison ont tenté d'échapper aux soupçons en maquillant leur crime en accident. Mais il n'en est pas toujours ainsi. En 1995, dans la banlieue de Sarasota, en Floride, un meurtrier ne fit rien pour cacher son geste. Au cours de l'après-midi du 7 novembre, Stevie Belouche, âgée de 13 ans, rentra chez elle après l'école. Il semblait n'y avoir personne. Mais elle tomba bientôt sur une scène d'une horreur indescriptible. Sa mère, Sheila Belouche, de 35 ans, gisait morte sur le carrelage de la cuisine. En proie à la panique, la jeune fille appela le service d'urgence. Des policiers et des experts judiciaires du service de police de Sarasota County furent immédiatement dépêchés chez elle. Pour qu'aucun indice ne soit détruit par mégarde, on commença par faire entrer un photographe afin qu'il conserve minutieusement tous les détails du crime sur pellicule. Sheila Belouche avait été tuée sauvagement. Un projectile avait causé une blessure à l'une de ses joues. Certaines contusions indiquaient également qu'elle avait été battue. De plus, il y avait une lacération si profonde à son cou qu'elle en avait presque été décapitée. Pendant que des techniciens recueillaient les indices sur la scène du crime, le mari de la victime, Jimmy Belouche, arriva chez lui. Les détectives devaient lui apprendre la nouvelle de la mort de Sheila. Ils lui assurèrent ensuite que sa belle-fille Stevie et les quadruplés que le couple venait d'avoir étaient tous sains et saufs. Le mari, visiblement assommé par la nouvelle, fut emmené au poste de police pour y répondre à quelques questions. Pendant ce temps, les techniciens recueillaient des traces de sang afin de reconstituer les événements qui avaient conduit à l'homicide. À en juger par leur taille et leur emplacement, Sheila Belush avait d'abord reçu un projectile d'arme à feu près de la porte de la salle de lavage. De longues traces de sang indiquaient qu'elle avait alors rampé pour tenter d'échapper à son agresseur, mais qu'elle n'avait franchi qu'un mètre au plus avant que celui-ci ne la rattrape et ne lui tranche la gorge. Rien ne semblait indiquer que le vol était le mobile de ce meurtre. Dans la salle de lavage adjacente à la cuisine, les experts recueillirent la douille d'un projectile de calibre 45. À moins d'un mètre de là se trouvait une serviette blanche. Une partie du tissu était tachée de poudre explosive, laissant présumer que la serviette avait servi de silencieux de fortune. Mais pour une raison inconnue, le meurtrier n'avait tiré qu'un seul coup avant d'achever sa victime avec un couteau. L'experte Lisa Lanham tenta de trouver un sens à la violence infligée à Sheila Belush.
Pourquoi s'était-il servi de son arme qu'une fois ? Il y avait deux raisons possibles. Soit parce qu'elle faisait trop de bruit, dans une pièce aussi restreinte qu'il craignait qu'un voisin ne l'entende, soit parce que la serviette s'était coincée dans le canon de l'arme et l'avait rendue inopérante.
À la recherche de tout indice que le meurtrier aurait pu laisser derrière lui, les experts recueillirent des dizaines d'empreintes digitales un peu partout dans la maison, notamment des empreintes trouvées à seulement quelques centimètres de la douille du projectile. Ces indices furent tous envoyés au laboratoire judiciaire de Sarasota County. Le détective Chris Iorio du service des homicides fut affecté à cette enquête.
Tout ce que je savais alors, c'était que cette mère de 6 enfants était morte dans sa cuisine des suites d'une blessure à la tête, vraisemblablement causée par un coup de feu. C'était le point de départ de l'enquête.
Les enquêteurs savent d'expérience qu'ils ont plus de chances de résoudre un meurtre dans les 24 premières heures. Avec peu d'indices et aucun suspect apparent, ils espéraient que l'autopsie leur fournirait une piste sur l'identité du brutal meurtrier de Sheila Belush. La police de Sarasota, en Floride, déployait toute son énergie pour trouver une explication à la mort de Sheila Belush, cette femme de 35 ans, mère de 6 enfants, trouvée brutalement assassinée dans sa maison. Lors de l'autopsie, le médecin légiste retira un projectile de calibre 45 tiré à bout portant au visage de la victime. Le projectile avait fracassé sa mâchoire, mais ne l'avait pas tuée. La mort était plutôt imputable à une blessure au couteau qui avait sectionné les veines jugulaires. Sheila Belush était morte vidée de son sang. Il n'y avait aucune trace d'agression sexuelle ni indice sur l'identité du meurtrier. La violence avec laquelle celui-ci avait tué la victime laissait croire qu'il la connaissait. On convoqua Jimmy Belush, le mari de Sheila, pour lui poser quelques questions. Celui-ci décrivit Sheila comme une mère dévouée, une épouse aimante. Jimmy ajouta que Sheila, ses 2 enfants d'un mariage précédent et lui, avaient quitté San Antonio au Texas depuis peu, pour s'installer en Floride. Sheila venait de traverser un divorce difficile. Lorsque Jimmy et elle avaient appris qu'ils auraient des quadruplés, ils avaient décidé de refaire leur vie dans une nouvelle ville. La décision de partir n'avait pas été aisée à prendre. Mais selon Jimmy, l'ex-mari de Sheila avait continué à la harceler, même après que le divorce eût été prononcé. Jimmy ajouta qu'au moment du meurtre, il travaillait. Mais le détective Chris Iorio ne tint rien pour acquis.
Au début de cette enquête, Jamie Belush était notre premier suspect en raison de la place qu'il occupait dans la famille. Mais après 4 ou 5 heures à l'écouter répondre à nos questions, nous étions presque sûrs qu'il n'était pas impliqué.
Le détective I. Orio appela les autorités de San Antonio au Texas pour leur demander d'interroger l'ex-mari de Sheila à propos du meurtre. Alan Blackthorne, un homme d'affaires prospère, ne cacha pas que son divorce d'avec Sheila avait été pénible, mais il soutint qu'il n'aurait jamais cherché à faire du mal à la mère de ses enfants. Au moment du meurtre, il était parti jouer au golf en Arizona et il disposait encore des reçus pour le prouver. Sans suspect ni mobile à cet homicide, la police de Sarasota devait tenter de trouver des preuves à partir des seuls indices. Des experts remarquèrent que l'empreinte digitale trouvée tout près de la douille du projectile ne provenait d'aucun membre de la famille. Par ce détail, les enquêteurs faisaient un pas de plus dans le travail d'identification. Maintenant, il leur restait à trouver qui avait laissé cette empreinte. Ils retournèrent dans le quartier où vivaient les Belush pour questionner les voisins sur les événements le jour où le meurtre avait été commis. Une voisine déclara avoir vu un homme d'origine hispanique, portant des vêtements militaires, descendre d'une voiture blanche et marcher dans le quartier. La femme n'avait pas eu la chance de bien voir le visage de l'homme, mais elle se rappelait toutefois quelques numéros de sa plaque d'immatriculation.
Quand on m'a parlé de cet hispanique qui se promenait dans le quartier en tenue de camouflage, je me doutais bien qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un du quartier. Ici, ce sont surtout des gens retraités. Personne ne s'habille ainsi, surtout pas par cette chaleur, avec une chemise à manches longues et des pantalons. C'était évident qu'il ne venait pas d'ici.
On publia dans les journaux de la région une description de l'homme et les détails entourant l'homicide. Peu de temps après, les policiers eurent un tuyau. Le commis d'une épicerie située à quelques kilomètres de la scène du crime avait lui aussi aperçu un homme d'origine hispanique portant des vêtements de camouflage à peu près au moment du meurtre de Sheila. L'homme était venu lui demander des renseignements. En fait, il voulait trouver le quartier où la jeune femme allait être assassinée peu de temps après. Le commis montra à l'homme un plan détaillé du secteur. Il ajouta que l'inconnu était ensuite monté à bord d'une voiture blanche et qu'il était parti. Les policiers recueillirent le plan en espérant que le suspect y aurait laissé ses empreintes. Au laboratoire judiciaire, les experts y trouvèrent de nombreuses empreintes digitales. L'experte Lisa Lenham les compara ensuite à l'empreinte du suspect trouvée sur la scène du crime. L'une d'elles était identique. Les policiers disposaient d'un suspect et d'indices qui démontraient qu'il se trouvait sur la scène du crime. On devait maintenant trouver son nom. Jusque-là, on n'avait qu'un numéro de plaque d'immatriculation incomplet. Ce n'était pas suffisant.
Nous avons commencé par vérifier les plaques en Floride. Une piste, c'est une piste. Il faut tout tenter. Quand on s'est aperçu que l'on n'obtenait rien, on a décidé d'effectuer les mêmes recherches au Texas, compte tenu que les Belush venaient de cet État. Nous avons alors appris que la voiture était enregistrée au nom d'un individu au Texas. On ne pouvait pas négliger cette piste.
La voiture blanche appartenait à un certain José del Toro, âgé de 21 ans et vivant à Austin, au Texas.
On a vérifié les antécédents de ce José del Toro dès qu'on a eu son nom. On a alors découvert qu'il avait un passé criminel, mais rien qui pouvait nous laisser croire que c'était un meurtrier.
Mais cette conclusion, seuls les experts légistes pouvaient la faire. On fit parvenir la carte d'empreinte digitale de José del Toro au laboratoire judiciaire de Sarasota, où des techniciens les comparèrent à celles recueillies dans la maison des Belush. Après un examen minutieux, ils purent en conclure que c'était bien lui qui avait laissé l'empreinte. On fit émettre un mandat d'arrêt. Les autorités d'Austin, la ville où vivait Del Toro, furent incapables de le retracer, mais ils trouvèrent sa voiture. Munis d'un mandat de perquisition, ils fouillèrent le véhicule. Dans un sac se trouvait un Colt, un pistolet semi-automatique de calibre 45. C'était le même type d'arme que celle utilisée pour tirer sur Sheila Belouch. Pour ne rien laisser au hasard, les enquêteurs envoyèrent l'arme au service balistique du laboratoire judiciaire de Floride. Les experts commencèrent par faire un tir d'essai dans un réservoir d'eau. L'eau ralentit la course du projectile sans modifier les marques caractéristiques créées par le canon de l'arme. Les projectiles recueillis pourraient ensuite être comparés à la balle qu'on avait retirée de la joue de Sheila Belouch. À l'aide d'un stéréoscope, les experts constatèrent que les stries caractéristiques de l'arme étaient identiques sur les deux projectiles. Les analyses judiciaires étaient sans équivoque. José Del Toro avait assassiné cette jeune mère de 6 enfants. Cet homme n'avait pourtant aucun lien avec sa victime. Pourquoi l'avait-il tuée? Et où se cachait-il? La police de Sarasota, en Floride, avait finalement trouvé un suspect relativement au meurtre de Sheila Belouch, une femme de 35 ans, mère de 6 enfants, trouvée sauvagement battue, blessée d'un projectile et poignardée chez elle. Tous les indices semblaient indiquer que le meurtrier était José Del Toro, 21 ans, qui aurait fui au Texas immédiatement après avoir commis le meurtre. Malheureusement, tous les efforts pour le retracer avaient été vains. C'est alors que la police obtint un tuyau selon lequel le fugitif vivait chez des parents à San Antonio. Pour obtenir de l'aide, la police de Floride entra en contact avec les autorités du Texas. Malheureusement, on ne parvint pas à trouver le suspect. On put toutefois parler à son cousin, un certain Sammy Gonzalez. Celui-ci accepta de venir au poste pour y être interrogé. Le lieutenant Gary de Los Santos de la police du Texas mena l'interrogatoire. Gonzalez déclara qu'il ignorait où se trouvait Del Toro. Mais il croyait détenir des informations à propos du meurtre. Quelques mois plus tôt, déclara-t-il, une de ses connaissances, un arnaqueur du nom de Danny Rocha, avait essayé de l'engager pour qu'il roue quelqu'un de coups pour lui. Sammy avait montré un certain intérêt, mais en voyant la victime, il avait décliné l'offre. Il connaissait toutefois quelqu'un que cela pourrait intéresser.
Sammy a reconnu que Danny Rocha l'avait approché pour qu'il batte quelqu'un. Quand il a su qu'il s'agissait d'une femme, il a refusé de le faire. Mais il a suggéré quelqu'un à sa place. Son cousin José Del Toro, qui pouvait être prêt à le faire.
Sammy déclara qu'il ignorait si son cousin avait accepté ce boulot et il n'avait pas demandé pourquoi cette femme était ciblée. Sans trop savoir si ces informations étaient pertinentes, les enquêteurs fouillèrent le passé de l'arnaqueur. Ils furent surpris par ce qu'ils découvrirent. Danny Rocha était un associé du prospère ex-mari de Sheila Belouch. Ainsi donc, celui-ci avait-il peut-être comploté pour la faire tuer? Les policiers savaient que leur divorce avait été pénible, mais avait-il été à l'origine d'un meurtre? Une amie du couple en était persuadée. Sheila lui avait parlé de son ex-mari, Alan Blackthorne, et de son côté obsessif et dominateur. Pendant les procédures du divorce, il lui avait demandé de lui confier la garde exclusive de leurs enfants. Devant son refus, Blackthorne l'avait fait arrêter sous le faux prétexte qu'elle battait leurs enfants. La plainte avait été cependant abandonnée et Sheila avait obtenu la garde des enfants. Mais Alan Blackthorne avait juré de se venger. Selon l'ami de Sheila, celle-ci avait pris cette menace au sérieux. Quand elle s'était installée en Floride, elle s'était assurée que son numéro de téléphone et son adresse demeurent confidentiels. Les enquêteurs devaient maintenant prouver que l'ex-mari de la victime avait orchestré le complot pour la faire tuer. Danny Rocha, l'homme qui avait vraisemblablement embauché le tueur à gages, fut convoqué pour un interrogatoire. Sur les conseils de son avocat, il refusa de répondre aux questions des enquêteurs. Mais avant de lui donner congé, le lieutenant de Los Santos demanda à Rocha de poser avec lui pour une photographie. Il accepta. Le lendemain, ce fut au tour de Sammy Gonzalez de venir au poste. Les policiers étaient convaincus qu'il en savait plus sur les meurtres que ce qu'il en avait dit. Lorsqu'il vit la photo de Danny Rocha, il crut que celui-ci avait accepté de collaborer avec la police et il décida de parler. Il reconnut avoir touché $14,000 de Danny Rocha pour tuer Sheila Belouche. Peu de temps après, il avait engagé son cousin pour faire le boulot à sa place. Sammy croyait que c'était l'ex-mari de Sheila, Alan Blackthorne, qui avait commandé ce meurtre et avait fourni l'argent. Il divulgua ensuite l'endroit où se cachait le tueur, José Del Toro. Il ne fallut que peu de temps pour retrouver la trace de Del Toro dans un motel du Mexique. Il fut arrêté et après de nombreuses procédures légales, extradé aux États-Unis pour y subir son procès. Les autorités avaient désormais identifié trois conspirateurs dans le meurtre de Sheila Belouche, mais le présumé cerveau derrière toute l'opération était toujours en liberté. À la recherche de preuves de son implication, les enquêteurs obtinrent l'autorisation d'examiner ses relevés téléphoniques des mois précédant l'homicide. Un numéro qui y apparaissait souvent était celui du garant de caution qui avait fait sortir Sheila de prison après son arrestation injustifiée. Celui-ci déclara qu'il enregistrait toutes ses conversations. La police réalisa alors qu'il était certainement l'un des rares individus à connaître la nouvelle adresse de Sheila Belouche.
Nous avons obtenu ces enregistrements et pu entendre Alan Blackthorne prétendre qu'il était quelqu'un d'autre pour ainsi obtenir l'adresse de Sheila.
Les enquêteurs purent démontrer que peu avant le meurtre, Blackthorne avait obtenu l'adresse de Sheila. Cette preuve, ajoutée au témoignage des complices, suffirent pour faire arrêter le prospère homme d'affaires. Le 4 janvier 2000, Alan Blackthorne fut mis en détention provisoire et accusé de complot en vue de commettre un homicide. Lors de son procès, les policiers apprirent que peu après son divorce, Alan Blackthorne avait commencé à comploter pour faire assassiner son ex-femme. Au cours d'un voyage où il était allé jouer au golf, il avait dit à Danny Rocha qu'elle battait leurs enfants et qu'il voulait l'arrêter coûte que coûte, même si cela signifiait la faire tuer. Danny Rocha accepta de tout organiser. Après avoir obtenu l'adresse de Sheila en Floride, le tueur à gages se rendit à la maison des Belouches. José Del Toro est entré par effraction et il a attendu l'occasion de passer à l'action. Il a pris la jeune mère par surprise. pour leur rôle dans ce meurtre. José Del Toro et Danny Rocha ont été condamnés à la prison à vie. Sammy Gonzalez a eu droit à 19 ans d'emprisonnement. Quant à Alan Blackthorne, il a été trouvé coupable d'avoir organisé le meurtre de son ex-femme et condamné lui aussi à la prison à perpétuité. Pour certains, l'argent est un mobile assez important pour commettre un meurtre. Lorsqu'il n'y a aucun lien apparent entre le meurtrier et sa victime, les détectives font appel aux experts judiciaires pour découvrir qui organise des meurtres sur commande.